Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et le retour, comme toutes les semaines, de Jean-Pierre Foultier, fidèle au poste. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et nous allons repartir au cœur de notre pensée scientifique. On s'était quitté la semaine dernière. Vous nous aviez promis un sujet un peu plus léger que celui de la théorie de l'évolution,
oui,
dont vous nous avez expliqué les enjeux philosophiques d'envergure. Alors,
tout en restant dans le domaine de la science, qui est le thème de cette série de chroniques, mais pas que, puisque le monsieur dont nous allons parler aujourd'hui, et qui aurait cette année 567 ans...
Oh, un petit genou.
...est à la fois un homme de science et un homme d'art. Et quel artiste, puisque nous allons parler de Léonard...
De Vinci.
De Vinci.
Évidemment. Léonard, dont c'est, je crois, d'ailleurs l'anniversaire.
Oui, mais pas l'anniversaire de la naissance. On ne fête pas les 567 ans.
On mais les compte plus.
Celui de sa mort. Léonard de Vinci est décédé le 2 mai 1519. Il y aura donc exactement 500 ans dans 2 semaines et 1 jour. Une bonne raison de parler de lui, non ?
Exactement, et c'est vrai qu'on connaît parfaitement le peintre de la Joconde, on connaît peut-être un petit peu moins l'homme de science.
Probablement, quoique beaucoup ont certainement en tête ce dessin de l'homme de Vitruve, une étude sur laquelle on voit la décomposition dans un cercle des gestes d'un homme, bras et jambes écartés, ou encore ses plans pour une machine volante.
On ne savait pas forcément comment ça s'appelait, donc c'est l'homme de Vitruve.
L'homme de Vitruve.
On découvre quelque chose.
Je vous propose de découvrir un peu mieux cet artiste né dans la province italienne de Toscane et mort en France. Un humaniste européen dont nous pouvons bien honorer l'anniversaire.
Bon, on s'installe confortablement et vous nous racontez, Léonard.
Il est né près de Florence en 1452, enfant naturel d'un notable de la petite cité de Vinci, et d'une fille de ferme. Il est cependant accueilli avec affection dans la famille paternelle et y reçoit une éducation rudimentaire. Ses dons précoces pour le dessin le font remarquer de l'artiste Florentin Verrocchio, dans l'atelier duquel il va se former aux côtés d'un certain Botticelli. Il y pratique la peinture, mais aussi un peu la sculpture, la dorure, la gravure, la menuiserie et y découvre les mathématiques. Il s'affirme rapidement comme artiste-peintre, mais également comme ingénieur. Et c'est à ce double titre que, recommandé par les Médicis de Florence, il entre au service du duc de Milan, Ludovic Sforza. Le peintre y réalise des portraits et des décors de théâtre, et l'ingénieur, des machineries, des éléments d'architecture. Il élabore également à cette époque des projets techniques et militaires.
Un vrai touche-à-tout de génie, donc, en quelque sorte.
Et en cela, Léonard est l'archétype de l'honnête homme de la Renaissance européenne. Une tête bien faite plutôt que bien pleine, selon le mot de Montaigne. Bien que n'ayant reçu aucune formation universitaire, Léonard s'intéresse à tout, à l'art, la peinture, la sculpture, l'architecture et même la musique et la poésie, mais aussi à la science, la technique, la botanique, aussi bien qu'à l'anatomie et l'armement. On le sait également, écrivain et philosophe, dans la veine de l'humanisme, caractéristique de cette Renaissance européenne. Dans le domaine scientifique en particulier, qui lui donne la possibilité d'appliquer les deux principes fondamentaux dont nous parlions les semaines précédentes, l'observation et l'expérimentation, d'où ses nombreux croquis et dessins, qui n'ont pas tous débouché sur des réalisations, mais qui ont révélé des aptitudes techniques indéniables et une imagination créatrice hors du commun.
Et alors, il me semble que ces dernières années, il les a vécues en France.
Il vous semble bien. Après avoir travaillé à Florence, à la cour de Milan, nous l'avons dit, mais aussi à celle de Rome auprès de Julien de Médicis et de son frère, le pape Léon X, mais au Vatican, c'est désormais Michel-Ange qui est en vedette. Aussi déçu de ce manque d'égard, il accepte en 1516 l'invitation de François Ier de s'installer près de son château d'Amboise et il est nommé premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi, offrant à ce dernier certains tableaux qu'il avait rapportés dans ses bagages à dos de mulet, dit-on, à travers les Alpes, dont la Joconde. Et en lui donnant le château du Clos-Lucé, François Ier, qu'il considère comme un père, lui dit « Ici, Léonard, tu seras libre de rêver, de penser et de travailler. » Et il y travaillera. à de nombreux projets comme ingénieur, architecte, metteur en scène. Et c'est là qu'il s'éteint le 2 mai 1519. Il est devenu depuis une des figures majeures de la peinture, mais aussi de la culture européenne. Ses tableaux les plus connus restent la scène, peinte sur les murs d'un couvent de Milan, et surtout la Joconde, dont le Louvre s'enorgueillit et qui attise ces derniers temps quelques convoitises. J'aurais pu vous proposer le clip de Beyoncé tourné devant le célèbre tableau, mais pour rester européen, c'est un extrait de la savoureuse chanson de Barbara que la chanteuse Juliette interprète ici avec beaucoup d'humour que je vous propose d'écouter.
C'est moi que je suis la Joconde, Léonard m'a cru gironde. On sait que Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde ? C'est vrai que je suis pas trop immonde, la Joconde, c'est vrai que je suis pas trop immonde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mauvais on m'inonde, critiques, artistes abondent, en d'un tarissable faconde, plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah oui, la Joconde, oh la Joconde. Mais c'est totalement dingue! Écoutez, je ne sais pas, moi, les mecs, les gens, ils vont les leur dire les vraies valeurs, la Joconde, c'est vrai, leur dire sourire, la Joconde, quoi, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Et je sourirai sous les bombes, la Joconde, et je sourirai sous les bombes, la Joconde.
Et voilà pour ce titre, La Joconde, interprété par Juliette, chanson signée Barbara. On termine donc sur cette pointe de légèreté, cette troisième chronique consacrée à la pensée scientifique européenne. C'était la dernière ?
Pas tout à fait.
Ah.
Aujourd'hui, nous avons fait le lien entre science et art. La prochaine fois, dans 3 semaines, nous parlerons de science et de fiction.
Il va falloir patienter, jour férié oblige. Rendez-vous donc le 15 mai. Et en attendant, eh ben, très bonnes vacances du coup.
Bonnes vacances.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.